Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Salut tout le monde et bienvenue à ce sixième épisode des Dérangeants. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un immense merci parce qu'après cinq épisodes, cinq podcasts, on a déjà dépassé le nombre total de téléchargements de toute la saison 1 de l'année passée. Il y avait combien d'ailleurs d'épisodes l'année passée?
On avait 13.
13 épisodes?
13 épisodes.
C'est en plus. Et ceux que vous avez entendu applaudir, Marie-Claude Duquette est avec nous aujourd'hui.
Bonjour!
Salut Marie-Claude, Alex Mancier est là.
Salut Pat.
Et Marie-Philippe Simard.
Allô!
D'abord, j'en profite pour vous souhaiter une heureuse Saint-Valentin, parce qu'on est quand même dans la période de la Saint-Valentin présentement. Ben, ça vous tente, c'est effrayant. Bravo, la gang.
Non, mais on est entrepreneurs. On ben, a
OK, okay on a vous autres, ça ne vous intéresse pas, ben, ces affaires-là. Hein?
On est au-dessus de ça, nous,
OK,
l'amour,
d'abord,
là.
Bon.
Okay, donc, on... pas le temps pour ça.
Fait que le thème d'aujourd'hui, comment trouver l'âme sœur dans une entreprise, c'est pas...
C'est ça, on n'a rien à dire.
OK.
C'est terminé.
Mais là, mais vous êtes deux célibataires, les filles, right?
Oui, mais pas à la recherche, fait que...
Fait que si c'est Valentin pour vous autres, c'est pas...
Ben, on fait bien des affaires, là. On va juste faire un Red Lobster ce soir.
Bon, on va commencer par les coups de cœur, coups de gueule. Et moi, je commence par mon coup de gueule. Votre enthousiasme aujourd'hui. Non, allez-y, qui commence? Coup de cœur, coup de gueule, je vous écoute.
Moi, je vais commencer parce que c'est très important, mon coup de gueule. Vous allez voir. On est deux dérangeantes.
Marie-Philippe, je t'écoute.
Ouais. Deux dérangeantes, une invitée féminine. On est trois filles sur cinq ici. Ça n'a jamais arrivé. Puis c'est le début de la révolution féminine sur Terre, je pense. Je trouve ça extraordinaire. Ça arrive jamais. C'est très rare d'avoir des invités. C'est pas qu'on essaye pas, mais c'est très rare. Puis on est deux dérangeantes sur sept. Fait que extraordinaire, extraordinaire.
Et d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai omis de la présenter, la fameuse invitée qui va être avec nous dans quelques instants. C'est Stéphanie Harvey, la championne du monde de gaming dans quelques instants. Va être avec nous.
Ouais, mais moi, je comprends pas la différence coup de cœur, coup de gueule. À chaque fois, j'ai mélange. Moi, j'y vais. C'est ça.
Ben voyons donc.
Non, je comprends pas.
C'est un concept assez de base, hein? Ben, en tout cas.
OK, mais écoute. J'ai de la misère avec ma gauche, ma droite. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en lien avec ça.
Le cœur, la gueule.
Coup de cœur, coup de gueule. Je sais pas. Pour moi, coup de gueule, c'est positif.
Ben, moi, je trouve que c'est un coup de cœur.
Ben, écoute, bon. Ben oui, Marie le dit. Ouais. Mais ça voulait dire ça quand même. Coup de cœur. Je suis bonne humeur.
OK, mais quand on a une bonne humeur, absolument, c'est un coup de cœur.
Ben, c'est ça. Je le reprendrai la prochaine fois.
Oui, c'est ça. Alex?
Hey, moi, je vais d'un coup de gueule. Il y a une couple de semaines, Caroline et Néron ont eu des déboires financiers qui ont été étalés sur la place publique.
Oui.
Puis là, je me suis mis à lire les commentaires un peu dans les médias sociaux que les gens disent, les gérants d'estrade, ceux qui ont probablement jamais rien fait de leur vie. Hey, on est-tu méchant quand le monde a des échecs? Ça
on attend souvent que ça.
Il y a personne qui lance de fleurs parce qu'elle a quintuplé son chiffre d'affaires en deux ans. Mais parce qu'elle a des échecs, puis là, c'est public, hey, on pile dessus, on lance des rushs. Non, je trouve que comme Jean, là, ça fait pitié, puis c'est très cheap. Très cheap. Tu sais, il n'y a personne qui part une business avec son nom personnel pour échouer, là. On s'entend? Fait que ça, je pense qu'il y a des gens qui devraient peut-être faire d'autres choses que passer leur journée à écrire des commentaires négatifs, là.
On dirait que les gens étaient contents qu'elle se plante à quelque part.
Oui.
Puis je trouve que ça sort d'une espèce de jalousie mal placée. Peut-être c'est au Québec ou je sais pas si c'est.
Non,
juste
c'est pas au Québec.
Ou...
C'est pas au Québec.
Mais on dirait qu'on est content quand les gens échouent. C'est un peu pathétique, là. On
ben, devrait
pas être
triste,
content.
Là.
C'est plate, là, qu'elle soit rendue là. C'est plate pour ses employés. C'est plate pour. C'est plate. Et on devrait pas. On devrait au contraire essayer de trouver une façon de l'aider. Puis je sais pas que à la gang, là, on met tout un pote puis on met de l'argent dedans. Mais non, je trouve ça super triste.
Je suis assez d'accord avec toi. Donc, coup de gueule, donc, pour les gens qui ont critiqué Caroline Néron.
Les gérants d'estrade qui n'ont rien essayé dans leur vie puis qui se permettent de juger les gens.
Il y a du jugement là-dedans. Là.
Ben oui, non, mais c'est facile de juger après coup. Mais ouais, quand tu es dans l'action puis tu prends des décisions, ça se peut que
non,
tu
mais
te trompes.
C'est vrai, j'ai lu des commentaires qui disaient, ben là, elle n'a pas payé son impôt, c'est mon argent, ça. Je suis comme.
Ouais, c'est pas ton argent.
On peut-tu, tu sais, ouais. faire la part des choses? OK, mais je vais enchaîner avec ça parce que moi, c'est un coup de gueule.
OK.
Mon premier, c'est mon premier. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé justement qu'est-ce que je pensais de la situation avec Caroline Néron. Puis spontanément, j'avais vraiment de la peine. J'avais vraiment, peu importe ce qui se passe, c'est triste, c'est pas une bonne nouvelle, c'est poche. Puis j'étais dans un week-end, je parlais avec des amis, puis ça nous emmenait à la discussion de la faillite. Puis en discutant, moi, j'ai des amis qui sont dans le domaine de la construction et la faillite, c'est une mode.
Et là, l'échappatoire. Hein?
On fait pas, on va faire la part des choses. Je parle pas de la situation, justement, de Karine Néron. Juste, en construction, au Québec, en ce moment, il y a quelque chose qui doit être fait, quelque chose qui doit être changé. Moi, j'ai des entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui roulent 25, 20 millions par année, des fois 15. Quand un contrat de 20 000, 100 000 qui n'est pas payé, puis là, la grosse firme, la grosse compagnie à Montréal, oh mon Dieu, sont sur le bord de la faillite, ça va pas bien, on va redresser ça. Ils redressent, mais le gars qui a fait la job, là, lui, là, il est toujours pas payé. Mais il y a toi, puis un autre, puis un autre. Fait que finalement, il se ramasse là avec tellement de pertes, puis c'est pas des petits montants. Puis après ça, il revient et me dit « Hey, tu peux-tu m'en refaire la job? » la job que tu m'as pas payée, là, la même? Non. Non. Fait que, puis là, tu peux pas trop bouger, parce qu'on va se le dire. Là finalement, ben c'est la mafia. Il en parlait, puis là, la vapeur montait, puis même moi, j'en revenais pas, moi, avec mon petit 8 000 là, que je me fais pas payer. Mais eux, c'est des faillites par-dessus faillites, puis finalement, ils s'en sortent pas, puis là, ils se réincorporent sur un autre nom de compagnie, mais avec 2019 au bout, Inc., là. Sérieux.
Non, mais c'est que, juste renchaîner sur ton point, j'ai un client que je nommerai pas et il m'a carrément dit, moi, je construis une tour à condo puis à la fin, quand c'est fini, je fais faillite. Fait que la prochaine tour à condo, mon dossier de CSST est vierge, j'ai pas besoin d'honorer aucune garantie après. Fin d'histoire. Bon, il est peut-être plus client chez nous, là, mais...
Mais c'est sûr qu'il y en a... Mais t'as raison, donc c'est une mode carrément, c'est rendu
ouais,
comme
puis il y en a
hein?
qui l'utilisent de manière négative, mais tu sais, si tu prends un commerçant, je sais pas, tous les gens dans le commerce de détail qui ont de la misère là, dans les dernières années, il faut aussi permettre à ces gens-là que si jamais ça marche pas, pour plein de raisons, puis ils ont essayé, là, ça fait 3 ans qu'ils essaient d'adresser, puis ça marche pas. Un commerçant qui est dans à sa rue Sainte-Catherine, qui a des travaux, puis il n'y a plus de clients, tu sais. À un moment donné, il faut permettre à cette personne-là de dire, OK, j'arrête, je t'aboute, puis qu'elle soit pas empêchée de rien faire pendant les 10 prochaines années.
Je suis d'accord, tu sais mon histoire. Moi, je connais des gens près de moi, très près de moi, qui ont fait faillite, et je les respecte, je les aime. Là, je parle du domaine de la construction, où il y a de l'abus total.
Cela étant dit, je me rends compte que le thème de la faillite, ça nous fait tous réagir. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait en faire le thème d'une émission au grand complet.
C'est noté à quelqu'un.
Fait que vous le vouliez ou non, que vous soyez des entrepreneurs et que ça ne vous intéresse pas pareil, il reste qu'on est en période de Saint-Valentin puis moi, j'y tiens. Et que la thématique d'aujourd'hui sera donc comment trouver l'âme sœur comme ça dans une entreprise avec nous autres. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. On va s'en parler au cours des prochaines minutes. Mais dans quelques instants, on reçoit la gameuse professionnelle Stéphanie Hartz.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
Elle est une développeuse de jeux vidéo, une joueuse professionnelle de jeux vidéo, une championne du monde. Non, mais on reçoit vraiment pas n'importe qui dans Les Dérangeants. On est extrêmement heureux d'avoir avec nous Stéphanie Harvey qui est là. Bonjour Stéphanie.
Salut.
Stéphanie, donc c'est ça, c'est championne du monde de Counter-Strike, entre autres. Mm-hmm. T'as commencé ta carrière comment? C'est quoi le flash qui a déclenché cette passion-là pour les jeux vidéo?
Mais je dirais que c'est un peu comme n'importe quelle activité un peu orthodoxe. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, là, les jeux professionnels de jeux vidéo. J'ai commencé à jouer dans mon salon comme monsieur, madame, tout le monde. Même encore aujourd'hui, il y en a qui peuvent faire ça. Puis avec le temps, c'est devenu de plus en plus une passion jusqu'à temps que je découvre qu'il y a des compétitions. Puis ça existe. Ça, on parle en 2003. Là. Ça fait quand même un bon moment. Puis je dirais durant les 10 premières années de ma carrière de joueuse professionnelle de jeux vidéo, c'était pas rémunéré, c'était que par pure passion d'être la meilleure joueuse au monde, de gagner les Coupes du Monde avec des petites bourses par-ci, par-là, mais c'était en continuant ma carrière, mes études, tout ce que j'avais en parallèle. Donc, moi, j'appelais ça une passion, mais qu'une passion qui était quasiment à temps plein. Là. Je faisais au moins du 40-50 heures semaine là-dessus seulement. Okay. Mais ça rapportait aucun revenu. C'est pure passion. Puis, quelques années, là, je dirais, un peu moins que 10 ans, peut-être 7-8 ans, là, ça a comme explosé. Les jeux vidéo ont explosé. Les générations vont dire vieillissent et dans un sens rajeunissent, là, dans le sens que ceux qui sont nés avec les jeux commencent à avoir de l'argent, à avoir un impact sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on regarde et tout ça. Et puis les jeux vidéo, c'est carrément un nouveau monde là, avec des dizaines et des dizaines de métiers complètement différents, exactement comme on a dans le sport puis dans le jeu. Puis là, ça m'a permis de pouvoir en faire une carrière jusqu'à ce que je quitte ma carrière de développeuse en jeux vidéo, de game designer, pour faire ça à temps plein de la compétition de jeux vidéo.
Wow!
Comment ils font pour dire que t'es la championne du monde Comme c'est quoi cette qualification-là? Donc, les Olympiques,
du jeu vidéo? Oui, ben comme le sport, il y a plein de tournois, plein de Coupes du monde, plein d'événements. Puis, moi, durant plusieurs années, j'ai fait la Coupe du monde des jeux vidéo. Ça s'appelait Electronic Sports World Cup. Donc, la Coupe du monde du sport électronique qui se déroule en France. Ce tournoi-là se déroule encore, mais c'est plus la même envergure qu'il y avait. Ça a comme évolué la scène. Puis moi, dans le fond, ce tournoi-là, j'ai gagné 5 fois, qui était le plus gros tournoi à ce moment-là. Dans ces années-là. En 2019, comme je dis, il n'existe plus, là, puis il y a d'autres jeux, il y a d'autres tournois qui ont pris le dessus. Donc voilà.
Moi, mais pour gagner, c'est quoi? Faut que tu tues tous les autres?
Dans le fond, il y a plusieurs jeux, plusieurs domaines. C'est un peu comme dire que les jeux vidéo, c'est le sport, puis il y a chacun des sports. Fait qu'il peut y avoir le hockey, le football, la natation, telle distance, bon, peu importe. Puis nous, on a la même chose dans le jeu, donc on a des compétitions. Moi, je joue à Counter-Strike, qui est un jeu de 55 un jeu un peu d'armée, le militaire, qui est vraiment des terroristes, des contre-terroristes. Puis le but, là, c'est d'avoir d'amasser le plus de points, que ce soit en désamorçant une bombe ou en la faisant exploser. Donc, premier à 16, là, pour ceux qui se connaissent un peu plus. Puis quand tu gagnes ces matchs-là, ben, c'est un peu comme un tournoi, comme tu as dit, aux Jeux olympiques. Là, on peut passer les demi-finales, les finales, bon, tout ça.
Donc, comme aux Jeux olympiques, j'imagine que là, après ça, t'as les commanditaires qui embarquent. Exact. Là, je sais qu'il y avait il y a une mode de se faire filmer à jouer à des jeux vidéo. Puis là, des gens, ils peuvent payer pour te regarder jouer à des jeux vidéo.
Oui. En fait, ça s'appelle la diffusion en ligne, en direct. Ouais. Moi, je fais ça quasiment tous les jours. Ça s'appelle du streaming, là, ouais. Bon anglicisme. Puis c'est un peu comme regarder une vidéo YouTube live de quelqu'un qui joue, mais... Il est en direct, puis tu as un chat, là, tu peux interagir avec lui. Ça, c'est gratuit, mais tu peux donner de l'argent à cette personne-là pour l'aider à vivre, dans le fond, parce qu'elle donne un entertainment là, pendant des heures et des heures. Exact. Donc, moi, j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de Québécois aussi qui me soutiennent comme ça pour que je continue à diffuser en ligne, en direct. C'est comme si, je dirais, un joueur du Canadien faisait de la diffusion en ligne de sa pratique. Le matin à l'aréna ou peu importe. C'est un peu ça dans mon cas. Je me pratique souvent dans le jeu le matin avant mes pratiques avec mon équipe. Puis les gens peuvent me regarder jouer. On a bien du fun ensemble. Ils peuvent me parler en direct. Puis après ça, ben, je les laisse aller chacun à leurs autres occupations. Puis moi aussi, je vais en faire d'autres choses après.
Mais c'est pas comme... Excuse-moi, c'est pas comme YouTube où t'es payé, mettons, j'ai pas une pièce par 1000 vues, là, je sais pas.
Ça peut être ça aussi. On a des commercials, des advertisements, okay. Des pubs. On en a beaucoup aussi. Je dirais que c'est peut-être un dixième de mon salaire de Twitch, là, avec les inscriptions, avec les dons, avec tout ça. Mais il faut savoir que moi, mon salaire principal, c'est mes commanditaires puis mon équipe professionnelle de jeux vidéo. J'ai le même contrat qu'un joueur de hockey, par exemple.
Genre 5 millions par année?
Non. Je veux dire, au niveau des clauses. Dans le fond, moi, je fais partie du Madison Square Garden Group, qui est le propriétaire des Rangers, des Knicks, tout ça. Ils ont aussi une division jeux vidéo. Puis on a vraiment le même contrat d'athlète que eux. On a le même soutien que eux. C'est vraiment intéressant.
Tu viens de parler d'argent et d'équipe professionnelle. Est-ce que les filles sont aussi bien payées que les gars?
Écoute, ça, c'est une question compliquée parce qu'il n'y a pas de filles qui sont aussi bonnes que les gars.
Pourquoi? Impossible.
En fait, c'est que c'est difficile de savoir pourquoi. Là, je veux tout dire en même temps. Mais il faut savoir que moi, je pense, avec mon expérience, que c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de filles qui jouent à des jeux vidéo en compétition. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une fille qui soit aussi bonne qu'un gars. Je dirais que c'est la même chose que pourquoi il y a moins de filles en humour, pourquoi il y a moins de filles aux échecs, pourquoi il y a moins de filles au poker. C'est un genre de mini-mystère qui fait que... non seulement il y a moins de filles qui commencent à embarquer là-dedans, mais à la fin, les filles, comme je dirais, lâchent plus durant le parcours parce que c'est très difficile. Puis en tout cas, là, je dis pas ça pour tout le monde parce qu'il y a des filles comme moi qui sont très compétitives et qui ont la drive d'aller jusqu'au bout, mais il y en a beaucoup qui recherchent plus l'aspect social dans le jeu vidéo et moins le désir, la testostérone de vouloir gagner, d'être la meilleure. Donc, il y a beaucoup de filles en jeu, mais elles sont pas tous en compétition. Donc, je dirais qu'on est moins bien payé, mais c'est parce qu'on est moins bonne. Donc, je trouve ça correct.
Peut-être moins représentée.
Mais quand tu gagnes.
Ben, on est moins bonne. Ben, je peux pas gagner. Je suis pas la meilleure joueuse de Counter-Strike au monde et même pas au Canada au niveau des hommes. Il y a 2-3 gars qui sont meilleurs que moi.
2-3, c'est pas super.
2-3, ben, je dirais plus que ça, mais j'étais
juste. Tu contre des filles, toi. Quand on dit championne du monde, c'est des filles.
Ces 5 Coupes du Monde-là, je les ai gagnées contre des filles. Par contre, durant toute ma carrière, moi, je joue contre des gars. Je fais peut-être un ou deux tournois de filles ou de femmes par année seulement. Okay. C'est un peu comme avoir un genre de tournoi collégial ou la Coupe du monde junior durant Noël qu'on a de hockey. Mais durant le reste de l'année, ben, ces gars-là, ils jouent dans les mêmes ligues que tout le monde, mais ils ont la chance de gagner la Coupe junior une fois par année.
OK. Quand on pense aux jeux vidéo, on pense souvent aussi à l'Asie puis tout ça. Mm-hmm. Es-tu une star, mettons, en Corée, au Japon, peut-être plus qu'ici même?
Je dirais que mon jeu est pas très populaire en Corée puis au Japon. Probablement que si je jouais à un jeu comme League of Legends, il y aurait beaucoup plus de chances que je sois populaire là-bas ou StarCraft. Okay. Okay. On a une Canadienne qui s'appelle Scarlett. Elle a joué StarCraft puis là-bas, c'est une superstar. C'est une des meilleures joueuses au monde, même avec les gars. Moi, vu que c'est Counter-Strike, c'est plus populaire en Europe puis en Amérique. Puis en Europe, en Amérique, ben, le jeu est moins, je dirais, dans les rues. Là. C'est encore un peu plus underground, c'est encore un peu plus caché. Mais ça devient de plus en plus mainstream là, avec la plupart de mes amis qui ont 30 ans et moins, qui n'ont plus la télé, qui ont seulement Twitch et Netflix. Uh-huh, bon. Uh-huh. Je dirais qu'au Québec, là, on est peut-être une trentaine de joueurs professionnels de jeux, puis je suis la seule qui est comme petit peu, commence à être un petit peu être connue. Donc, moi, c'est une de mes batailles là, de rendre ça de plus en plus accessible à tous, puis d'élever ces athlètes-là là, qui sont nombreux au Québec.
Tu sais, comme depuis tantôt, on fait plein de parallèles avec le sport. Dans le sport, un joueur d'hockey doit prendre sa retraite beaucoup plus tôt que quelqu'un qui fait travailler en arrière d'un bureau. Toi, dans ta situation, est-ce que tu vas en être trop vieille pour pouvoir jouer à des jeux? Comment ça fonctionne?
Je dirais que c'est pas nécessairement que je suis trop vieille ou pas. Je dirais que j'ai plus la même passion d'être 12 heures devant mon ordi à jouer à des jeux. C'est pas tout le monde là, qui est à ce niveau-là, mais moi, à 32 ans, tu sais, je viens d'acheter un chien, puis j'ai le goût de passer du temps avec mon chien, puis j'ai le goût d'apprendre, puis j'ai le goût de me sentir, je dirais, valorisée dans mon travail, autre que d'être la meilleure joueuse, que ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, ça demande beaucoup de temps, que ça soit comme pour être ici en train de faire le podcast ou des espèces de commitment que moi, je me donne, qui fait que j'investis moins dans le jeu, ce qui fait que je me fais dépasser par des plus jeunes. Je dirais que c'est plus ça le gros désavantage qui fait que là, je suis peut-être sur le bord de la retraite parce que je voudrais... Je veux diversifier ma vie. Là. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas encore de faire 5 à 6 heures de jeu par jour, mais l'extra supplémentaire pour me rendre à 9-10, j'ai comme plus autant le feu, puis ce qui fait que je peux moins compétitionner avec eux. Là.
Puis, t'es-tu obligé de jouer, comme exemple, le soir? Parce que la plupart des gens jouent quand ils reviennent de travailler, ils reviennent de l'école. Est-ce que tes 12 heures, tu les passes le soir jusqu'à 3-4 heures du matin, ou tu joues de 8 à 5, là, comme tout le monde qui va travailler?
Ça dépend du jeu, puis ça dépend aussi du niveau où t'es. Il y a de plus en plus de structures qui veulent se faire au niveau du 8 à 5, dans le sens qu'on veut restructurer ça, mais moi, le jeu que je joue, c'est encore le fin d'après-midi soir. Fait que vers 6 heures jusqu'à comme 10-11 heures à peu près, c'est là que je joue avec mon équipe de jeu. Puis si je veux me pratiquer personnellement, faut que je le fasse avant ou après. Puis moi, vu que je vais avoir une rythme de vie un peu plus normale, je le fais avant. Donc ça me fait des matinées très tard. Puis dans le fond,
c'est dur, c'est la vie sociale, ça.
Ouais, c'est difficile. Ça, je dois dire, les soupers la semaine, puis les filles, d'aller au cinéma, tout ça, c'est quand même très rare là, que je fais ça.
Puis le fait justement que tu aies eu des commandites avec toi puis avec ton équipe, est-ce que ça fait en sorte que si tu décides d'arrêter demain matin, tu peux prendre 3-4 ans de sabbatique puis aller voyager, ou c'est pas encore une rémunération assez importante pour...
Il m'arrive de savoir à quel point c'est payant.
Exactement.
Je dirais que ça peut être 0$ jusqu'à des millions. Donc, c'est vraiment dépendamment du jeu qu'on joue, dépendamment de qui on est.
Puis mettons une fille québécoise.
qui joue à Counter-Strike.
Ben, ce que tu viens de dire, depuis 2-3 ans, je peux le faire.
Okay.
Fait que ça s'en vient correct, okay. Mais pendant je sais pas combien d'années, j'ai fait rien. Fait que, tu sais, ça va très bien ces temps-ci. Je me suis acheté un condo cette année, un char, un chien. Tu sais, bon, j'ai tout fait ça comme en un an. Tu sais, la plupart des gens font ça sur 10 ans, mettons, mais moi, j'ai tout fait. Bam! Je suis partie de rien à tout, mais c'est ça, j'ai 32. Fait que, tu sais, j'aurais pu avoir ce que j'ai là en travaillant un job normal. Faut savoir que maintenant, il y a beaucoup plus de chances de faire ça plus jeune. J'ai des amis de 20 ans qui sont millionnaires dans le jeu vidéo. Donc, c'est vraiment... je dirais un coup de chance, mais aussi de talent, de priorité, de choisir le bon jeu, d'être dans le bon pays, d'être dans la bonne équipe, d'avoir le bon commanditaire. C'est exactement comme un mix avec les influenceurs puis les sportifs. Là. C'est vraiment un entre-deux où on se doit de faire des trucs d'influenceurs là, sur les médias sociaux et tout ça. Mais en même temps, si t'es le meilleur au monde puis tu fais rien de ça, tu vas quand même être aussi populaire.
Comment t'es perçu quand t'arrives à la banque puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis ben moi, je joue à des jeux vidéo.
Je suis dans aucune catégorie, c'est vraiment l'enfer. Cette année, pour acheter mon condo, il a fallu que je me débrouille comme je pouvais. Ça a été vraiment compliqué. Là.
C'est comme une entreprise, pas, dans le fond, toi-même?
Ouais, je suis dans le fond, moi j'ai ma propre entreprise.
Comme travailleur autonome.
Je suis comme travailleuse autonome avec ma propre entreprise, puis mes revenus sont instables parce que c'est tout des contrats, c'est tout. On sait jamais ce qui va se passer. Je suis pas pas vraiment sport professionnel, mais je suis comme sport professionnel, mais je peux pas prouver que je suis Carey Price. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas évident. Tout le monde est super gentil, tout le monde comprend ma situation, tout le monde veut me donner les prêts pour un whatever, sauf que il faut quand même que je prouve mes revenus. Fait que c'est quand même pas évident. Ça fait une couple d'années que je fais affaire avec des gens professionnels qui s'occupent de tout ça pour moi, parce que ça t'en vient très compliqué, là, je dis, avec des visas américains, avec des 4 rapports d'impôts à faire un peu partout. Donc, là, je me suis équipée de gens
bien
qui... Exactement, qui sont confort, parce que moi, je trouve ça trop long, en fait. Là,
Stéphanie Harvey, un immense merci d'être passée ici en studio. T'es vraiment, vraiment gentille. Puis, je te laisse aller te soigner, parce que j'ai appris que physiquement, ça pouvait être tough aussi, quand même,
ouais,
le gaming.
Je suis suivie par un physio. Il y a une couple d'années, là, ça m'a fait assez mal qu'il fallait faire attention. Puis, depuis maintenant, ça va bien.
Merci beaucoup, Stéphanie Harvey.
Merci.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
dérangeants! Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
On vous présente maintenant aujourd'hui donc une troisième start-up finaliste parmi les 10 sélectionnées par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Et puis je vous rappelle d'ailleurs là, que jusqu'au 4 juin prochain, vous savez que vous pouvez voter en ligne pour le projet de votre choix. Il va se mériter donc une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Puis les dérangeants, vous allez aussi vous choisir un gagnant. Alors notre projet du jour, Marie-Claude.
Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Minimaliste. On écoute sa directrice générale et associée, Élise Tremblay.
Salut, c'est Élise de Minimaliste. Mes associés et moi offrons une solution d'habitation durable et économique qui s'inscrit dans le marché de l'immobilier de l'avenir. De leur conception à leur construction, nous proposons des mini-maisons sur roues haut de gamme et sur mesure pour répondre aux besoins de leurs futurs propriétaires. Que ce soit pour un premier achat, une maison de retraite ou un bureau de travail, nous saurons vous créer un espace adapté à vos besoins. Pour plus d'infos sur nos différents projets, ça se passe au www.minimaliste.ca. À bientôt!
Marie-Philippe, Alex, vos commentaires.
Hey, j'aime ça.
Ah oui, hein?
J'aime ça parce que je voyais le concept comme une maison, mais l'idée d'avoir un bureau, je trouve que ça s'ouvre à plein d'industries. Là, les gens qui travaillent dans le secteur saisonnier et qui ont besoin d'un petit bureau temporaire, amènent la maison là. Non, j'aime ça.
Puis elle avait de l'air convaincue, je trouvais aussi.
Belle confiance. Ouais. Belle confiance. Pour tous les autres, là, si vous faites un pitch très rapide, essayez d'énoncer les caractéristiques un petit peu du produit. Mettons, c'est grand comment cette maison-là? C'est quoi les prix? C'est juste pour que les gens s'attendent un petit peu avant d'y aller. Mais bon, on appelle ça un call to action, là, un appel à l'action à la fin d'aller sur le site web. Très bon, ça. Tu sais, que pour les gens, il y ait quelque chose à faire, puis drive-through au trafic Internet. Très bon.
Et d'ailleurs, en ce sens-là, pour découvrir nos 10 finalistes et aller voter, bien, vous irez sur lesdérangeants.com/vente-à-salade. Le vent, ça prend un S, donc vente-à-salade.
Vente-à-salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente-à-salade.
Les dérangeants! Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
De retour dans le podcast des dérangeants, on se parle de l'âme sœur dans une entreprise, c'est-à-dire trouver le bon partenaire. D'abord, je vous pose la question, est-ce que c'est difficile?
Bien, moi puis Marie, on n'a pas de partenaire dans plein sens du terme. Mais étonnamment, dans tous les sens du terme, je pense pas qu'on est tant que ça à la recherche. Marie, tu pourras commenter, mais il y a deux choses. Soit que tu cherches un partenaire, donc un cofondateur, ou qu'à un moment donné, il y a quelqu'un que tu rencontres, tu te dis « OK, ça pourrait peut-être cliquer, tu sais ». Pour l'instant, moi, j'ai eu une mauvaise expérience quand on a commencé l'entreprise, qui a fait en sorte que je ne voulais plus rien savoir. Un peu comme quand tu as eu une mauvaise relation amoureuse, puis tu es comme, hey, manger de la merde, les hommes en entier. Puis, je n'ai pas, depuis, rencontré la personne que je me suis dit, ça va fitter, tu sais. Puis, là, rendu au stade de l'entreprise, bien, tout roule, puis mes employés font une bonne job, fait que je ne sens pas le besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre.
Dernièrement, je me suis posé la question, j'ai eu la réflexion de est-ce que je vais me chercher justement quelqu'un qui va me permettre d'emmener ma compagnie à un autre niveau. Parce que moi, dans le fond, j'ai racheté l'entreprise toute seule. Puis là, je me retrouve, mettons, bientôt 5 ans plus tard à dire, bon, bien là, je veux grossir, je veux prendre l'expansion. Là, j'ai tout le temps tout seul sur mes épaules. Mais ça veut dire aussi partager. Il faut que la personne m'emmène d'une poutre d'argent, mais là, je ne peux plus faire tout ce que je veux comme je veux. Puis ça dépend aussi, je pense, c'est comme l'entreprise où elle est. T'sais, moi, financièrement, ça va bien, fait que j'ai pas besoin d'input d'argent. Ça serait vraiment plus une question de connaissance, de contact, puis d'emmener ça ailleurs. Mais avec la taille de l'entreprise que j'ai au niveau de la valorisation de ce qu'elle vaut, je vois pas davantage en ce moment, moi, aller me chercher quelqu'un. Parce que quand tu arrives à, bon, ben, c'est ça, une compagnie qui en vaut ben, là, 5, 6, 7, 8 millions, ben, avoir un associé là, devient quelque chose de pertinent, je crois. Là.
Est-ce que c'est pas un peu lorsqu'on, comme quand on décide d'avoir un coloc dans une maison, où est-ce qu'on est habitué, nous, que ça marche à notre manière dans la maison? Là, de recevoir quelqu'un, ça implique qu'il va falloir faire des concessions aussi, puis que la manière de faire sera peut-être pas nécessairement la même.
C'est pour ça que j'habite tout seul.
Mais Marie, un chien. Tu sais, c'est un peu comme dans la vie. Plus ça prend du temps, plus à un moment donné, tu deviens un peu vieux garçon, vieille fille, puis t'es dans tes pantoufles, tu sais. Puis ça te tente. Moi, quelqu'un qui rentre demain matin, puis il faut que je commence à me justifier de pourquoi je rentre à telle heure, puis non.
OK, OK.
C'est ça.
Ben, tu vois, moi, j'ai une vision totalement différente de mes deux partenaires.
Vas-y, Alex, je t'écoute.
Et je ne suis pas célibataire. En tout cas, écoute, moi, après 3 ans, j'ai décidé de vendre une portion de l'entreprise à mon associé aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Mais le premier conseil que je pourrais dire, c'est un, prenez votre temps. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir un partenaire qui est aussi solide, sinon plus financièrement que vous. Les raisons sont simples. À un moment donné, dans l'entreprise, il faut aller au bat, comme on dit. Toi, t'as bûché pendant 3 ans pour bâtir ton entreprise. Puis là, ton associé n'est pas aussi solide que toi ou pas. Ça peut devenir fatigant. Donc, c'est ça. Et moi, ça a été extrêmement bénéfique.
Et pourquoi t'es allé chercher après 3 ans, mettons?
Moi, c'est simple. Moi, j'étais un gars de technique. J'étais un gars, à la base, un programmeur. Et là, on arrivait à un point dans l'entreprise où je manquais de connaissances, surtout au niveau financier. Ça commençait à être vraiment compliqué. Puis j'étais tanné de me battre seul. Donc, je suis allé chercher quelqu'un avec qui avait des connaissances que moi, j'avais pas. Il y a de l'expérience que j'avais pas. Puis après ça, on a bâti ensemble. Aujourd'hui, on a triplé la grosseur de l'entreprise. Ça va super bien. On s'entend extrêmement bien. Mais le deal a pris un an à se faire.
Puis est-ce que vous êtes 50-50 ou pas pantoute?
J'ai vendu 51% d'entreprise. J'ai vendu le contrôle de l'entreprise.
Okay.
Mais ça, c'est un choix personnel. C'était une condition, si tu veux, pour l'attirer. Mm-hmm. Mais je vis très, très bien avec ça. Là.
Et comment t'as fait pour mettre ta valorisation? Comment vous êtes fait pour vous entendre? Est-ce que lui, il a mis de l'argent ou c'était plus une...
Je donnerai pas les détails du deal, mais oui, lui, il a mis de l'argent. Mais on a valorisé l'entreprise à un chiffre que les deux, on était confortables. Okay. Une entreprise de service, donc c'est plus difficile à valoriser mm-hmm. qu'une entreprise qui vend des produits. Mais oui, on a fait une valorisation que les deux, on était confortables. Et on est allé de l'avant. Puis on a mis des conditions, là, si on veut, des KPI à atteindre dans le futur.
Mais comment on fait pour savoir que c'est, mettons, la bonne personne? Marie-Philippe, tout à l'heure, disait ça s'est mal fini dans ton cas. Toi, t'es hyper heureux. Je veux dire, c'est quand même pas rien de partager son bébé à un moment donné.
Tu sais, moi, j'en vois autour de moi. J'ai un de mes amis qui est avec son frère, puis ça va bien, puis ils se complètent, puis il y a une chimie familiale qui est là, puis c'est super beau à voir. Autant j'en ai un autre qui c'est le bordel, parce que là, son 4 là-dedans. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, on parle de 2, mais mm-hmm. des fois c'est 4, puis des fois c'est 5. Puis,
ça, c'est un bravo.
Il faut que tu sois sur la même longueur d'onde, là, parce qu'on s'entend, là, juste 2, là, des fois un dit quelque chose, l'autre entend d'autres choses. Je pense qu'ultimement, c'est quelque chose que j'aimerais aspirer à me rendre, tu sais, de dire je vais aller me chercher quelqu'un, mais trouver la bonne personne, mais je pense que c'est comme en relation, là. C'est la même affaire, c'est comme un couple.
Je pense pas que j'ai la recette parfaite. Je pense qu'il y a une question de chance là-dedans. Là. Parce que la personne, tu peux l'avoir pendant un an, ça va super bien, puis après ça, tu fais le deal, puis c'est un TDC.
C'est quoi un TDC?
Un trou du cul.
Moi, je savais, mais je vais l'entendre.
Fait que tu sais, il y a une question de chance là-dedans, mais je pense que tu peux faire les conventions d'actionnaires de façon à te protéger contre ça. Oui, il y a 51%, mais il ne peut pas tout faire. Puis cette personne-là agit absolument pas comme... I own the business. On est vraiment un team. Fait quand tu disais tout à l'heure de parler de justifier, on n'est pas là du tout. Là.
Est-ce que ça arrive de rencontrer quelqu'un pendant un bout de temps puis qui, tout d'un coup, une fois qu'il est impliqué dans votre entreprise, se transforme complètement? Là?
Ça se peut, oui.
Parce que là, il est impliqué monétairement. Ça devient son cash tout d'un coup. Puis,
Et moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Moi, je faisais partie d'un incubateur qui s'appelle le Founder Institute. Fait que c'est un incubateur accélérateur puis les gens sont dedans puis ils développent un projet d'entreprise. Puis... Il nous disait beaucoup, il fallait que j'aille avec quelqu'un de technique parce que toute seule, moi, j'avais un bac en droit. Puis il fallait que j'aille avec quelqu'un de technique. Puis il poussait beaucoup pour ça. Fait qu'à un moment donné, il y avait un gars qui était dans le programme avec nous, puis il s'est impliqué, puis il était bien fin, puis tout. Puis il a dit, ben gars, si tu veux, on va se mettre ensemble, puis on va faire le projet. Puis là, on n'avait pas rien fait. Là, la business n'est pas de commencer. Là. Il n'y avait pas de part, il n'y avait pas d'incorporation, il n'y avait rien. Puis moi, j'ai appris que mon père avait le cancer.
OK.
Puis il allait devoir rester à la maison, puis j'allais probablement m'occuper de lui parce qu'elle allait être en convalescence pendant un mois et demi, puis etc. Puis je l'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, écoute, moi, je vais être obligée de mettre ça sur le hold, je vais me retirer du programme parce que je peux pas faire une business puis gérer mon père qui sort de l'hôpital, je suis pas capable. T'sais. Puis moi, j'avais de la peine, puis j'espérais qu'ils me disent, oh, regarde, c'est pas grave, on va mettre ça stand-by, on va revenir, tu sais, un peu de compréhension. Mais pour une raison qui m'échappe encore à ce jour, il a été convaincu que c'était une excuse pour tout garder la compagnie à moi. sais, j'étais à ça d'y envoyer le rapport le médical de mon père, tu sais. Fait que ça m'a vraiment blessée. Ouais, puis après ça, il a admis à tout le monde qu'il était dépressif, qu'il était en train de faire une dépression à ce moment-là, tu sais. Mais reste que moi, j'ai vécu tout ça. Ça a failli aller en cours, là, cette histoire-là. Puis même à ce jour, il s'est jamais excusé. Puis là, je fais comme, moi, là, avant de me rembarquer dans un esti de fou de même, tu sais, il va falloir que il pédale les gens parce que moi,
puis c'est important de tout savoir, là. Tu sais, je pense que c'est juste, je sais pas, sa couleur de ses bobettes, tu sais.
Ouais.
Autant le positif que le négatif. Tu sais, moi, j'aime autant que tu me le dises au début. On va dealer avec. Puis si je suis prêt à dealer avec, mais on fera pas de deal.
Okay.
Mais tu sais, vraiment tout se dire là, à 100%.
Puis tu sais, on parle beaucoup de l'autre. Tu sais, faut que l'autre, ça fonctionne avec l'autre. Mais je pense qu'une des premières affaires qu'il faut faire quand on décide de vouloir un partenaire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est comme individu aussi. Là. C'est quoi nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on sait que ça marchera pas? Moi, je le sais maintenant. Là, j'ai 30 ans, fait que c'est plus vieux, mais je sais maintenant qu'il y a tel caractère que ça fonctionnera pas, tel trait de personnalité que ça fonctionnera pas. Puis c'est pas parce que quelqu'un est méchant ou moi, c'est juste que ça marchera pas. Fait qu'il faut beaucoup se connaître avant de vouloir aller comme en couple.
Puis il faut être prêt mentalement à déléguer, là. Mm. Tu sais, tu peux pas amener quelqu'un à bord puis ah non non, ça c'est moi qui fais ça. Ah non, ça c'est moi qui gère ça. Tu divorces une partie de ton entreprise si tu veux puis tu dis bon mais ça, c'est ton carré de sable, c'est toi qui gères ça puis garde. On va de l'avant là.
Recommandez-vous que l'âme sœur, le partenaire, les partenaires soient des chums ou si ça peut être dangereux pour les amitiés.
Et moi j'ai engagé deux amis. Il y en a une qui n'est plus puis il y en a un qui est resté. C'est délicat parce que si jamais ça fonctionne pas juste au niveau business, qui peut arriver n'importe quand, là, l'amitié risque de ne plus fonctionner. Fait que tu perds deux, là. Fait qu'il y a plus de risques, je pense. Fait que je suis pas sûr que c'est la si meilleure idée que ça.
Sans le côté du risque, moi, mon meilleur ami travaille avec nous. On se voit beaucoup moins qu'avant parce qu'on se voit tous les jours, tu sais. Fait que l'amitié change beaucoup à ce niveau-là. Là.
Puis moi, je prendrais plus un ami parce que tu le connais. T'auras pas de surprise, tu sais c'est qui. Je pense que j'aime mieux prendre peut-être le risque de perdre une amitié que de pas prendre la chance d'y aller avec cette personne-là pour qui j'y fais déjà confiance. Et on a déjà un respect mutuel. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. On est déjà capable de se parler. Puis que c'est... On a envie de le faire ensemble. Go, on le fait.
Okay.
Fait que moi, je le vois plus comme une aventure à ce moment-là. Puis qui peut juste bien tourner aussi. Là.
On vient de parler de l'âme sœur en amitié. Ça peut aussi être carrément en famille. De ce que vous avez vu, vous, autour de vous, en général, est-ce que c'est gage de succès d'avoir des partenaires qui sont de la même famille ou si, au contraire, ça peut être vraiment très rough?
Je me sens vraiment regardée en ce moment. Mais pourtant, Marie, elle vient de partir une entreprise familiale qui implique ta mère, ton père, ton frère.
Oui. On est les quatre.
Ah oui, Marie-Philippe, dedans. Ouais.
Ouais, c'est une business qui est spécialisée, ça s'appelle Akizico, spécialisée vente, achat d'entreprise. Fait que si vous voulez acheter, vendre, c'est un site web en ligne, vous pouvez aller voir akizico.com. T'as-tu vu la belle plug?
Akizico.com.
Ça s'est fait
tout naturel. C'est ça le lien que tu nous as envoyé l'autre fois.
C'est ça, quand je te poquais, c'est pas quoi. Mais nous, ça fonctionne bien parce que je pense que tout le monde est capable de savoir c'est quoi sa force. Puis l'entente qu'on a eue au départ, c'est de dire, regarde, ça c'est ma table, crisse-moi patience dans ma table. Fait que, gentiment,
exactement.
Là. Mais tu sais, ça, moi, c'est ça que je fais. Fait que moi, je m'occupe de toute l'administration. Laissez-moi tranquille là-dedans. Mon père va faire les ventes, mais il est là-dedans. Fait qu'il n'y a pas de compte à rendre. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Puis on a du fun en gang, tu sais.
Okay.
Fait que c'est important. J'aurais peut-être pas fait ça si on avait une drôle de dynamique familiale, mais nous, on a du fun. Fait que ça marche.
Ça, c'est le point de vue de Marie-Philippe. Marc-Claude?
Moi, la famille, ça marche. Autant, par exemple, j'ai déjà essayé de travailler avec des membres de ma famille, puis c'est ça, là.
on les salue.
Ben, tu sais, on s'aime beaucoup à Noël, tu sais.
OK.
Ouais.
Mais es-tu quelqu'un qui aime travailler avec les autres aussi? Toi, c'est tes affaires, ta business, ma manière de faire.
Moi, c'est...
Moi, dans la vie en général.
Tu poses vraiment cette question-là?
Ouais. Non? Marc-Claude?
Mais j'aime ça travailler en équipe. Je suis une fille d'équipe. Moi, travailler toute seule, là, oh mon Dieu, je serais pas capable. Ma team est importante. En ce moment, je veux la grossir parce que je veux vraiment créer quelque chose de beau. Puis honnêtement, je pose constamment des questions à mon équipe. T'sais, pour moi, je me sens pas en dessous. On est sur le même pied. J'aime ça qu'ils me challenge. Puis des fois, ils me disent, non, ça, Marie, c'est pas bon. En voyant, OK, je vais retravailler ça. Moi, je travaille vraiment en collaboration. Puis, tu sais, les dérangeants, c'en est un. On travaille en collaboration. Moi, j'aurais pas de misère, mais oui, j'ai une façon à gérer mes affaires en ce moment. Puis ça me demanderait beaucoup d'efforts là, comme changer certaines choses.
Mais moi, Alex, j'ai une question, puis c'est concernant ta blonde. Je sais pas si tu vas vouloir aller là, mais on y va pareil.
Vas-y.
Là, t'es avec ta blonde, tu travailles dans la business avec.
On a cofondé l'entreprise ensemble.
Bon, mettons là, ça arrivera jamais, mais mettons là que vous vous séparez.
Oui.
Dans les faits, tu dois aussi mettre fin à son emploi. Ça rajoute une coche de complexité.
Je serais pas obligé, mais ça serait un méga malaise, on va se le dire.
Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça rajoute un degré de... Tu sais, là, t'es avec ta blonde, je sais pas si vous avez signé les papiers, mais ça rajoute un degré de séparation.
Oui, tout ce qui est la paperasse est faite, mais si on parle de côté émotif, là, le côté de la chose, ce serait vraiment de la merde, là, on va se le dire. Là.
Ça dépend, c'est qui a trompé l'autre.
Ouais, aussi. Ce qui serait plus difficile, c'est parce que, tu sais, ma blonde, sa spécialité, c'est le marketing. Puis quand on a commencé ce projet-là ensemble, elle a mis sa carrière un peu on hold, tu sais. Fait que là, en ce moment, ce qu'elle sait faire, c'est pas nécessairement sa carrière. Fait que ça serait plus difficile à ce moment-là. Mais ça arrivera pas.
Mais ça arrivera pas.
Non, c'est ça. Fait que...
Ça, j'allais dire, pauvre Alex, on est en train de parler d'une situation hypothétique.
Non, mais c'est très, très, très... Tu sais, parce que moi, justement, on en parle... Je travaille avec ma blonde tous les jours. Mais tu sais, au travail pis à la maison, c'est deux choses carrément. Puis on s'est jamais chicané au bureau puis ça suivait à la maison. Jamais, ever.
OK.
Fait que tu sais, mais on a une super communication, là, aussi. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Si tu te pognes avec ta blonde à la maison, amène-la pour le travail, là, ah ouais. Ça va jamais marcher. Là. Mais des fois, on m'en va promener. Là.
Je conclue avec ça. Il y a sûrement un paquet de monde en ce moment qui nous écoute et qui se disent « Tabarouette, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour amener mon entreprise à un autre niveau. » Qu'est-ce qui est important de savoir, de connaître de l'autre personne?
Faut que tu saches tout. Mm-hmm. Tu peux pas comme avoir des surprises.
Puis je pense que ce qui est super important, des fois, les gens, on voit quelque chose chez quelqu'un puis on veut pas le voir. Regardez-le puis facez-le. Ça serait vraiment un de mes conseils.
Puis trouver un cofondateur, là, c'est pas une entrevue là, que tu vas faire, OK, c'est toi qui embarques puis tu prends 50% de ma business. Faut vraiment que tu passes du temps avec. Puis je pense qu'il faut que tu acceptes aussi, tout le monde a des défauts, faut que tu acceptes ces défauts-là. Fait que, tu sais, faut que tu aies une espèce de liste de défauts. Moi, mettons quelqu'un cheap, je serais pas capable. Même okay. Si c'est pas qu'il est méchant, mais quelqu'un, ça marchera pas. Fait que, tu sais, faut que tu acceptes qu'il y ait des défauts. Mais mettons, OK, il est intempestif puis il est impatient. OK, je vais vivre avec, tu sais. Fait que, faut accepter aussi les défauts de l'autre puis pas espérer qu'il soit parfait, parce que ça n'existe pas.
Ça a été extrêmement intéressant, Marie-Philippe, Alex et Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu.
Merci. Ça fait plaisir.
Un gros merci à Stéphanie Hervé également d'être venue nous voir ici en studio. Le prochain podcast numéro 7, on va se parler d'immobilier. Et on va recevoir la championne du monde de boxe, Marie-Ève Dicker. Bye tout le monde.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!